Sonia Backès et Nicolas Melchior vont rencontrer le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Il sera question des problématiques liées à l'ingérence de l'Azerbaïdjan au niveau national, mais aussi bien sûr en Calédonie. La tenue commune fait peau neuve en province sud. Le pack proposé pour 5 250 francs a été adapté pour mieux répondre aux besoins des familles, mais aussi pour réduire les coûts de production. La communauté sino-vietnamienne s'apprête à rentrer dans l'année du serpent de bois. La communauté vietnamienne se réunit ce soir à l'amicale de Magenta pour une grande soirée de fête. En Australie, plusieurs incendies font rage dans l'état du Victoria. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Nous ferons le point avec Jean-Pierre Zajac dans ce journal. Et puis une centaine d'athlètes calédoniens font une nouvelle fois partie de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Un statut qui offre de nombreux avantages, de l'accès à la formation en passant par des aménagements de scolarité pour les étudiants. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Une proposition de résolution européenne visant à condamner les ingérences de l'Azerbaïdjan. Elle a été déposée par le député Nicolas Metzdorf. Une demande de sanction et qui fait suite à la réunion la semaine dernière à Nouméa du congrès consécutif du Front international de décolonisation parrainé par le groupe Initiative de Bakou. Elisabeth Noir.
Cette proposition de résolution déposée par le député de la première circonscription avec le soutien de l'ensemble de son groupe appelle les institutions européennes et françaises à condamner fermement les actions de déstabilisation menées par l'Azerbaïdjan, à renforcer les dispositifs de cybersécurité et de lutte contre la désinformation, à soutenir la résilience des territoires ultramarins face à ces ingérences et à encourager une coopération internationale accrue pour détecter et contrer ces menaces. Nicolas Metzdorf, joint à Paris, nous en a dit plus sur cette démarche.
C'est un texte qui est voté par l'Assemblée nationale, qui sollicite de l'Union européenne des sanctions à l'égard de l'Azerbaïdjan, puisque c'est l'Europe qui peut prendre les sanctions les plus efficaces en matière économique contre l'Azerbaïdjan. Donc je suis soutenu par tout le groupe d'Ensemble pour la République, c'est le groupe de Gabriel Attal dans lequel je siège. Donc c'est signé par une centaine de députés, donc il y a de grandes chances que ça soit adopté dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale et que ça aille du coup à la Commission européenne pour qu'elle puisse mettre en œuvre le texte.
Vous allez également vous tourner vers les députés européens qui peuvent également vous aider dans cette démarche?
Oui, évidemment. L'idée, c'est aussi d'aller solliciter nos soutiens au Parlement européen. Et il en existe aujourd'hui, il en existe des importants. François-Xavier Bellamy, de la droite, qui est un fin connaisseur de la Nouvelle-Calédonie et qui a été un des premiers, si ce n'est le premier, à réagir au niveau national. Et puis Marion Maréchal, qui elle aussi suit l'actualité en Nouvelle-Calédonie et qui est intervenue aussi très rapidement. Et bien sûr, mon groupe, le groupe Centre. Triste. On va aller voir les socialistes aussi. Bon, l'extrême gauche, je n'attends pas grand-chose, mais l'idée, c'est d'avoir une majorité là aussi au Parlement européen.
Ces derniers jours, on le sait, plusieurs personnalités ont protesté contre l'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie et ses volontés de déstabilisation. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, du ministre des Outre-mer Manuel Valls ou encore du député européen François-Xavier Bellamy. Mais au-delà des condamnations, Nicolas Metzdorf attend désormais des sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan.
Il y en a plusieurs et mon objectif c'est d'en obtenir, c'est pas d'obtenir que des condamnations évidemment. Le but c'est que, un, au moins on puisse convoquer l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Paris pour lui demander des comptes. Deux, c'est que des sanctions économiques soient prises au niveau européen parce que c'est ça qui fera le plus mal à l'Azerbaïdjan. Donc c'est les deux objectifs que je me donne, c'est-à-dire un, une sanction diplomatique et deux, une sanction économique.
Ces prises de position et ces propositions de sanctions font suite notamment, vous le disiez, à la création à Nouméa du Front international de décolonisation qui s'est réuni au siège de l'Union calédonienne et dont les travaux ont été ouverts par une intervention en visioconférence du responsable du groupe Initiative de Bakou. Et pour le député Metzdorf, nous ne devons plus rien laisser passer.
Je trouve que, un, l'Azerbaïdjan a fait suffisamment de mal à la Nouvelle-Calédonie. Ils ont soufflé sur les braises qui ont conduit au 13 mai. Et je trouve assez humiliant qu'ils continuent, après le 13 mai, d'agiter la Nouvelle-Calédonie et de participer à la déstabilisation que mène la CCAT de la Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième chose, c'est que je suis un député de la nation et la France doit répondre. La France ne doit pas se laisser humilier chez elle par un pays du Caucase qui n'a rien à faire chez nous. Donc pour moi, c'est fondamental qu'on puisse démontrer que la France est chez elle en Nouvelle-Calédonie et que l'Azerbaïdjan n'a pas à déstabiliser une grande nation comme nous le sommes.
Un dossier auquel sont sensibles les responsables politiques métropolitains, affirme Nicolas Metzdorf, qui doit rencontrer dans les prochains jours sur ce sujet et en compagnie de Sonia Backès, notamment le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. J'ajoute que nous avons déjà parlé de ce sujet ce matin en compagnie de Bastien Van Den Dyck, spécialiste en géopolitique et directeur de cabinet de la présidente de la province sud. Il déclare notamment que l'Azerbaïdjan est une dictature islamiste sanguinaire qui massacre les chrétiens. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à la question d'hier, 96% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la France doit prendre des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan. Ils ne sont que 4% à penser le contraire. Voici notre question du jour. Les conditions sont-elles réunies, selon vous, pour une ouverture permanente de la RP1 à Saint-Louis au 1er février? Si vous pensez que les conditions sont réunies, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Un mot de l'actualité institutionnelle en Calédonie. Les élus de la province nord se retrouvent demain à Koné pour une séance publique avec à l'ordre du jour notamment le débat d'orientation budgétaire de la collectivité. Puis dans le nord toujours, en raison du manque d'effectifs infirmiers et médicaux, l'offre de soins au centre hospitalier du Nord est une nouvelle fois réorganisée pour la période du 1er au 28 février. Les urgences seront fermées au CHN de Koumac et de Poindimier. Elles seront ouvertes 24 heures sur 24 à Koné. À Koumac, les consultations externes seront fermées du 31 janvier au 5 février. À Poindimier, les consultations externes seront effectuées du lundi au vendredi. Enfin, à Koné, les consultations, les soins externes et l'hôpital de jour pour les chimiothérapies resteront ouvertes. Nouvelle formule pour la tenue commune 2025. Après de nombreux problèmes de livraison l'année dernière, la province sud souhaite mettre toutes les chances de son côté et bien démarrer l'année scolaire, Léo Fichou.
On se souvient tous de la succession de problèmes rencontrés l'année dernière par l'entreprise IPC en charge des tenues communes. Il y avait d'abord eu retard sur la livraison, contraignant les enfants des écoles publiques du primaire à venir avec leurs propres habits. Puis, durant les premiers jours des émeutes de mai 2024, le local du prestataire situé en face de Magenta Tour était parti en fumée, réduisant en cendres la totalité de son stock. Les tenues sont désormais entreposées à Ducos. Mais alors, que contient ce nouveau pack d'habits? Réponse avec Christophe Constant-Ninou, directeur d'IPC.
L'an dernier, on avait un kit à 5800 francs qui contenait 5 polos, 2 t-shirts, une polaire et un chapeau. Cette année, pour faire baisser le prix du kit aux parents, il y a désormais 4 t-shirts, un polo et toujours la polaire et le chapeau. Nous sommes ouverts depuis le 21 janvier, mais effectivement, on observe une intensification du flux de clients depuis. Probablement aussi, le bouche à oreille fonctionne très bien. Et donc, nous avons dimensionné l'équipe avec 10 personnes pour servir les parents d'élèves qui viendront chercher leur tenue et surtout pour pouvoir faire face au pic de fréquentation qui va probablement se produire pendant les 15 premiers jours de février.
Christophe Constantinou, directeur d'IPC. Notez que plusieurs familles ont déjà passé commande de cette tenue obligatoire sur le site tenue-commune.nc. Il est également possible d'acheter directement ce kit dans les locaux d'IPC au 40 rue de Papeete à Ducos. C'est ce qu'a fait Alice, maman de 2 enfants.
J'achète pour mes 2 enfants, pour la grande qui fait la rentrée au collège de Boulary et pour le petit qui fait sa rentrée en école maternelle. Je trouve ça bien déjà qu'il y ait des t-shirts par rapport aux polos d'avant. Ils auront moins chaud et puis voilà, il y avait des chapeaux aussi l'année dernière. Et voilà, je trouve ça très bien de toute façon faire les tenues communes depuis qu'ils ont mis ça en place. Moi je suis pour et je trouve ça top. Chaque année je m'y prends toujours un peu au dernier moment et c'est des files d'attente pas possibles. Donc là cette année j'ai dit allez on anticipe un petit peu avant la rentrée, on y va avant qu'il y ait plein de monde.
17 000 enfants sont concernés par cette tenue obligatoire et malgré les coupes budgétaires que la province a dû réaliser en 2025, elle n'a pas souhaité faire l'impasse sur cette mesure, explique Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
C'est une décision qu'on a prise juste après les exactions, c'est-à-dire que quasiment tout au début, le magasin des tenues communes a été entièrement détruit et on a décidé de relancer ce dispositif parce que les raisons pour lesquelles on l'a mis en place en 2017 sont toujours existantes aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin du sentiment d'appartenance des élèves quand ils ont la même tenue, le conditionnement, quand l'élève met son t-shirt le matin, c'est pas le même qu'il met pour aller à la plage le week-end, pour atténuer les inégalités sociales et puis surtout pour les parents, avoir une tenue à l'année qui soit très abordable, qui défie toute la concurrence. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, on a souhaité le remettre. Et il faut savoir que la province participe, hein, puisque pour chaque kit, les familles payent quasiment que la moitié du prix du kit et l'autre moitié est financée par la province.
Dernière nouveauté, le nom de l'établissement ne figure plus sur les habits, seul reste le logo de la province sud. Une façon d'économiser un peu plus sur les coûts de production, mais aussi de faciliter la réutilisation des habits pour les enfants, à condition qu'ils restent dans la même commune.
Et à l'approche de la rentrée des classes, la ville de Nouméa organise une collecte de fournitures scolaires. Jusqu'au 7 février, vous pouvez apporter dans le hall d'accueil de l'annexe Ferry des articles neufs ou en bon état, cartables, stylos, cahiers, trousses. L'objectif, permettre aux familles dont le besoin d'aborder la rentrée plus sereinement, tout en donnant une seconde vie aux fournitures. Tous les dons seront remis à des associations qui les redistribueront ensuite. Et puis le Sénat coutumier s'interroge sur les conditions de la rentrée scolaire en province sud. Il dit avoir été alerté sur des préoccupations exprimées par certains parents d'élèves et par l'UGPE. Dans un communiqué, le Sénat coutumier se dit désireux de comprendre les modalités qui seront mises en place et propose de rencontrer les autorités compétentes pour discuter des préoccupations soulevées et explorer les pistes de solutions adaptées. Il est 17h et pratiquement 57 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et c'est ce soir que la communauté vietnamienne célèbre le Tet. Elle sera réunie au foyer vietnamien de Magenta. Et ce sont 350 convives qui fêteront le passage à l'année du serpent de bois. Moment de convivialité et de tradition. La salle du foyer a pour l'occasion été décorée en jaune et rouge. Les précisions de David Nguyen, le membre fondateur de l'amicale vietnamienne.
Toute la semaine, on a préparé. C'est une belle salle, rouge et jaune. Ces couleurs de l'amicale, ces couleurs du bonheur, avec les panneaux de serpents. Regardez celui-là. Ce soir, on attend 350 personnes.
Cette table-là, qu'est-ce que c'est ?
C'est le présent qu'on offre pour les ancêtres pour la nouvelle année, pour qu'ils viennent manger les fruits frais. Il y a plusieurs sortes de fruits, vous voyez, tous des fruits frais. Bananes, papayes, fruits du dragon et des melons. Et les mangues. Il y a déjà le bengkyung, c'est celui qu'on prépare pour le Tet. Il y a une légende sur le bengkyung qui dit qu'il y a une année, un roi avait des enfants et voulait céder son trône. Et il a dit, je céderai mon trône à celui qui me fera le meilleur plat. Et puis ils ont tous essayé. Et puis le petit dernier qui vivait à la campagne, il avait du porc, il avait des bananiers, il avait du riz. Alors il a fait le bengkyung. C'est lui qui a eu le trône.
Et au programme de la soirée qui débutera à 19h30 au foyer vietnamien, des pétards pour chasser bien évidemment les mauvais esprits, des danses traditionnelles et notamment la danse de la licorne qui clôturera cette fête du Tet. De son côté, la communauté chinoise se retrouvera dans un restaurant autour de plats traditionnels, des traditions que nous avons évoquées dans notre journal hier soir avec le président de la communauté chinoise, Michel Fong, et le président de l'amicale vietnamienne, Patrick Guillon, qui ont souhaité, dans leur langue d'origine, une bonne année aux Calédoniens.
Moi, je suis d'origine Hakka, parce que chez les Chinois, il y a quand même plusieurs ethnies. Alors, en Hakka, on dit, en langage populaire, « Kyung Hye Fa Choy ». Mais si on veut dire « bonne année » en mandarin, on dit « Xin Yen Kuai Lo ».
Patrick Guillon.
Sắp giao thừa, xin kính chúc mỗi người, mỗi gia đình, một năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Donc à l'approche de la nouvelle année, je souhaite à chaque personne et à chaque famille une bonne année, pleine de santé et de bonheur, pleine de paix et de prospérité.
Et cette nouvelle année sur le calendrier asiatique s'ouvre donc sous le signe du serpent de bois. Un bilan positif pour la 72e quête annuelle de l'Ordre de Malte. Le week-end dernier, une vingtaine de bénévoles de l'Ordre s'est mobilisée. Ils étaient à la sortie des supermarchés ou des églises à Nouméa, Koné, Bouraï. Yann Carpentier, le président de l'Ordre de Malte en Calédonie, a été surpris de l'engouement des Calédoniens malgré la situation économique du territoire.
Compte tenu de la situation économique du pays, compte tenu du moral de la société calédonienne, on est vraiment très très reconnaissant vis-à-vis de tous les Calédoniens. Parce que, en fait, on s'attendait au pire, hein, je ne vous cache pas. et en fait le résultat il est bien. Voilà, et ça va nous permettre nous de mener nos missions. Et c'est en ça que je voudrais les remercier, parce qu'ils ont compris qu'on avait un petit peu besoin d'aide pour continuer à lutter contre cette maladie. En chiffres, c'est toujours assez délicat, mais on est entre 500 et 800 000, et ce qui est pour nous un bon résultat compte tenu de la situation. Mais encore une fois, vraiment, je profite de cette antenne pour remercier tous les Calédoniens de leur générosité et de leur compréhension.
Yann Carpentier, le président de l'Ordre de Malte en Nouvelle-Calédonie, joint au téléphone par Kéline Dabouacou. La médiathèque de Dimbéa lance en ligne son nouveau portail culturel. Il s'agit de dimbéa.bibenligne.fr. C'est un outil pratique pour les adhérents et usagers de la médiathèque. De nouveaux services 100% gratuits vont vous permettre de consulter le catalogue complet. Les explications de Sabrina Rosa Azic, chef de la cellule conservation et valorisation des patrimoines pour la ville de Dimbéa.
Jusqu'à présent, on ne pouvait pas avoir accès au catalogue de la médiathèque. Il fallait se renseigner auprès des bibliothécaires pour savoir si tel ou tel livre était disponible, pour savoir combien de livres on avait sur notre carte, ou pour réserver des livres, ou même pour prolonger nos prêts. Maintenant, on a un site internet sur lequel on va retrouver le catalogue de la médiathèque, toutes les informations relatives à la médiathèque. On va pouvoir aussi, si on est déjà inscrit à la médiathèque, avoir accès à son compte en ligne. Donc on va pouvoir vérifier ses informations personnelles. On va pouvoir également voir le nombre de prêts qu'on a en cours, si on veut réserver un bouquin, prolonger ses prêts. Voilà, grosso modo, on a 35 000 documents, ceux qui sont présents à la médiathèque. C'est ouvert à tout le monde, donc n'importe qui peut faire une recherche pour savoir si tel ou tel document est disponible à la ville de Dimbéa.
L'inscription est gratuite et c'est à la médiathèque de Dimbéa le mardi et vendredi de 13h à 17h, le mercredi de midi à 17h, puis le samedi de 9h à midi et de 13h à 16h. L'actualité dans la région Pacifique, en Australie, plusieurs incendies allumés vraisemblablement par la foudre ont déjà détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation. Ça se passe dans l'ouest de l'état du Victoria. Correspondant signé Jean-Pierre Zajac.
Les services d'urgence du Victoria ont indiqué que le plus grave de ces incendies, qui brûlent toujours, a progressé de 40 km et ravagé 65 000 hectares de forêt en une seule journée, dans le parc national de Little Desert, où, je cite, « de nombreuses constructions ont été détruites, dont un centre de villégiature ». À l'approche du feu, les 1700 habitants de la petite localité de Dimboula ont été avisés tard hier soir qu'ils étaient en danger et qu'ils devaient agir immédiatement pour survivre. L'option la plus sûre, ont averti les autorités, et de vous abriter à l'intérieur de chez vous. Il est trop tard pour partir, ont-elles prévenu. Quatre nouveaux incendies, là aussi allumés par la foudre, ont par ailleurs éclaté dans le parc national des Grampians, où près de 80 000 hectares de végétation avaient déjà été détruits il y a de cela quelques semaines. Le feu progresse dans des régions qui avaient jusqu'à présent été épargnées, ont indiqué les autorités, qui ont ajouté que le parc est à nouveau fermé au public, tout comme l'est aussi le parc national de Little Desert. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h04, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
RRB, première radio d'information.
La suite d'un soir et c'est du sport, Lionel Sabot.
Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative a publié la liste des sportifs français de haut niveau et de nombreux Calédoniens en font partie, Léo Fichou.
Et comme chaque année, effectivement, les sportifs de haut niveau sont répertoriés par le ministère des Sports et en 2025, une centaine d'athlètes calédoniens fait partie de cette liste. Pour Félicia Ballanger, référente régionale de la haute performance pour l'Agence nationale du sport, c'est un signe que le sport en Calédonie se porte bien.
c'est clair qu'il y a beaucoup de Calédoniens pour la population calédonienne qui sont listés. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que les Calédoniens sont sportifs. Ça veut dire que les associations sportives et tout le mouvement sportif est dynamique et réussit à susciter des vocations. Donc c'est quand même plutôt bon signe.
Et parmi les sportifs présents dans cette liste, on retrouve notamment Yolaine Yango, Maxime Grousset, Pierre Ferbanque chez les élites, Antoine Olivier et Loan Ville pardon, chez les espoirs, ou encore Phoebe Rocher qui cette année monte dans la catégorie relève. La kitesurfeuse était fière de découvrir ce changement.
C'est la troisième année où je suis listée sportive de haut niveau. Cette année, j'ai monté de catégorie. Maintenant, je suis dans la catégorie relève parce que j'ai pu atteindre le top 1 mondial. Donc déjà, je suis super contente d'avoir pu monter un peu. C'est une grande fierté pour moi et je suis très contente d'avoir accompli ça. Ça aide pour Parcoursup. Certaines écoles ont des places réservées aux sportifs de haut niveau. Donc on va pouvoir être sélectionné et on peut aussi avoir un emploi du temps aménagé. Donc on reçoit des subventions du gouvernement. Donc moi, dans mon cas, c'est super pratique pour m'aider pour les voyages, pour aller aux compètes. J'ai prévu d'aller faire une étape de la Coupe du Monde en France, puis au Brésil. Et aussi de faire un stage d'entraînement en Grèce, donc ça va pouvoir financer une partie de ces beaux voyages.
Et notez dans vos agendas que nous reviendrons sur cette liste ministérielle des sportifs de haut niveau demain avec Félicia Ballanger. La référente régionale pour l'Agence nationale du sport sera notre invitée du matin.
Du tennis au Brésil avec Maxime Chazal qui s'est qualifié pour le tableau principal du Challenger de Piracicaba. Le Calédonien s'est imposé ce matin en finale des qualifications sur un joueur argentin. Score final 6-1, 6-2. La nuit prochaine, Maxime Chazal affrontera le Bolivien Hugo Delien au premier tour du tableau principal de ce tournoi qui se joue sur terre battue. Le Calédonien ne part pas forcément favori puisqu'il est 338e au classement ATP alors que son adversaire pointe à la 122e place. Et puis du football en métropole, Marie-Laure Palen va affronter le Paris Saint-Germain en Coupe de France en battant l'AS Cannes d'une autre Calédonienne, Océane Elino, le week-end dernier. Le Mans, qui évolue en deuxième division, va disputer un quart de finale de prestige. Le match entre le club de Marie-Laure Palen et le Paris Saint-Germain est prévu pour le week-end du 8 et 9 février. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, sur la pointe nord, Bélep, le nord-ouest, en soirée, de faibles averses produiront. Aux loyautés près des pointes nord et sud, le ciel sera passagèrement nuageux avec quelques gouttes. Ailleurs, le ciel sera clair à peu nuageux. Le vent d'est-sud-est soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds, avec encore localement sur le sud-ouest en soirée des rafales à 30 nœuds. Sur le nord-ouest, il mollira entre 5 et 10 nœuds. Près de la pointe nord, des rafales à 30 nœuds sont prévues. Les températures minimales seront comprises entre 21 degrés sur l'ouest et 26 degrés sur le nord. Demain matin, sur l'ouest, le soleil dominera. Ailleurs, le soleil alternera avec des passages nuageux. Aux loyautés sur la pointe sud, ils apporteront des averses faibles. L'alizée d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Sur l'ouest, il sera plus faible en début de journée, pardon. Puis les brises atteindront environ 15 nœuds en fin de matinée, Lionel.
Merci Nicolas, à la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi.